Vous êtes sur RTL.
Merci Christelle. On est donc avec Aurélie, qui est une fille de gendarme. Que dire après la mort de ces trois gendarmes qui ont été tués, un quatrième blessé? Que dire sinon compatir, penser à la famille et dire que le métier de gendarme est à risque, comme les métiers de policier des forces de l'ordre? Aurélie, vous êtes infirmière.
Oui. Oui, c'est ça, tout à fait, Pascal. Oui, le métier de gendarme est à risque, mais il n'est pas seulement à risque quand il y a des gendarmes qui décèdent. Il est à risque sur chaque intervention et c'est leur professionnalisme qui fait que il n'y a pas tant d'accidents que ça, même si quand ça arrive, c'est tellement dramatique.
Ah, je disais, moi, je n'ai pas souvenir de trois gendarmes tués.
Il y a eu les deux femmes gendarmes à la Colombrière, mais trois, non.
Trois gendarmes tués ensemble, tués par un forcené.
À des moments différents, en plus, tout à fait.
Je n'ai pas souvenir de ça.
Non. Mais vous savez, les temps changent. Enfin, moi, j'ai 35 ans. Quand j'étais gamine, que je regardais par la fenêtre de l'appartement mon père ou ses collègues partir en intervention avec les gilets pare-balles, qu'ils ne les mettaient pas tout le temps et maintenant ils les mettent tout le temps. Donc là aussi, c'est signe que les temps changent. Quand ils partaient avec les gilets pare-balles, on se regardait avec ma mère et il y avait un froid qui était jeté dans l'appartement, quoi, jusqu'à leur retour. On savait que c'était quelque chose qui pouvait dégénérer parce qu'ils savaient sur quoi ils partaient.
Il a été là, gendarme combien de temps, votre papa ?
Toute sa carrière jusqu'à il y a 2 ans.
Et ça représente combien d'années de service ?
Je ne sais plus, plus de 35 ans. Mmh. Plus de 35 ans, ouais.
Et il n'a pas eu d'incident majeur, si j'ose dire ?
Pas majeur, non, mais il y a eu des choses qui ont été compliquées. Il y a des choses qui ont été compliquées. Et oui, c'est bien de la part d'Emmanuel Macron de rendre hommage à nos héros, comme il dit. Mais ça intervient tard. C'est pas une fois qu'il y a des gendarmes qui sont morts qu'il faut leur rendre hommage. Et c'est surtout dans les moments difficiles qu'il faut soutenir les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, la police, les pompiers. C'est dans les moments difficiles. C'est dans les moments d'égarement, comme on a pu en connaître en cette fin d'année concernant le producteur Michel Zecler. C'est voilà, et c'est tout le temps qu'il faut les soutenir parce que les soutenir quand il y a des morts, c'est un petit peu malvenu, même si on accepte ces condoléances et ces mots de compassion.
Voilà. Et merci Aurélie, restez avec nous parce qu'on va être avec Daniel dans une seconde, qui est un ancien gendarme. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et 13h10, c'est Laurent Tessier là, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Trois gendarmes tués et un quatrième blessé par un forcené cette nuit alors qu'ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales. Et cela pouvait réagir sur nos réseaux sociaux. Sincère condoléances aux familles, nous dit Christine. 2020 restera une année noire jusqu'au bout. Tout mon soutien à nos forces de l'ordre, écrit Marie. Yves parle d'une terrible tragédie qui montre malheureusement que nos policiers et gendarmes risquent leur vie, parfois la donne pour assurer notre protection. Et ce sont des hommes, des femmes, des parents, des frères, des sœurs, écrit Thierry. Quelle cruauté, immense tristesse. Encore des familles en deuil juste avant Noël, lance Véronique. Mon cousin a perdu son fils, gendarme, un 24 décembre. Il avait 25 ans. Et François parle, comme Emmanuel Macron, de quatre héros. Respect et honneur à ces gendarmes.
Daniel est là, il est ancien gendarme. Aurélie restée, elle est fille de gendarme. Et Daniel, qui évite plutôt, souhaitait réagir.
Oui, merci.
Bonjour.
C'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de frissons ce matin quand j'ai appris la nouvelle, même si on est encore, des anciens gendarmes. Mais d'apprendre ce genre de nouvelles, ça nous touche quand même tous. Et je pense que toute la gendarmerie d'être touchée, mais avec un G majuscule, quoi. Mais c'est bien en même temps que le gouvernement, que Macron reconnaisse un petit peu nos activités et ce fameux métier qui est quand même pas facile, qui est quand même relativement assez dur. On est quand même confronté avec pas mal de difficultés quand on est sur le terrain. Et c'est vrai que si on nous considère qu'on est comme des héros, en même temps, si on nous considère comme des héros, c'est parce qu'effectivement, on a peut-être toutes les qualités physiques pour pouvoir aller sur le terrain. On a également toutes les qualités morales pour pouvoir affronter tous les problèmes que l'on rencontre à droite, à gauche, avec également beaucoup de courage. La générosité, on l'a aussi. Et puis on a surtout cette formation du sens de la justice, en même temps. Et en même temps, ça permet de défendre toutes ses valeurs. Et c'est pour ça que le terme de héros nous convient parfaitement à ce moment-là. Quand on est sur le terrain, on sait à peu près juger les dangers qui nous attendent. Et en même temps, sauver des vies. C'est ce que disait tout à l'heure le reporter là, à l'instant. Donc c'est très très bien d'avoir cette reconnaissance de l'État. Je trouve que c'est absolument formidable.
On entend votre émotion. J'espère, Daniel, que lorsqu'il arrive un drame comme cela, l'État, toute la vie, en l'occurrence des personnes qui sont restées veuves, mais aussi peut-être des enfants qui sont jeunes parce qu'il faut les élever, j'espère que l'État assure une protection financière pour ces personnes-là qui sont la famille des gendarmes. Parce que quand on meurt dans ces conditions-là, la patrie et tout l'État doit évidemment être reconnaissant et doit aider ces familles-là. On sait bien que rien ne remplace, bien sûr, la mort, mais que l'État est présent dans toutes les étapes de la vie, et je pense notamment aux enfants.
Je pense, oui, tout à fait. Mais pour répondre à votre interrogation, l'État fait monter le gendarme avec un grade supérieur pour justement avoir une pension supplémentaire pour l'épouse qui reste veuve, les personnes qui restent derrière. Voilà, ils le font monter en grade supérieur, je pense, pour avoir une pension un peu plus importante.
Et j'espère que les enfants sont protégés et peuvent continuer une scolarité et même un cursus universitaire, pourquoi pas.
Oui, enfin, le terme de héros est...
Que l'État soit présent dans ce cursus-là, c'est ça que je veux dire.
Oui, absolument. C'est cette reconnaissance. Et il a trouvé le mot idéal, il a trouvé le mot parfait pour nous encenser, c'est pas du tout ce que les mots qu'on recherche, mais en tout cas nous faire reconnaître ce métier de gendarme. Comme disait tout à l'heure Aurélie, elle a très très bien soulevé aussi le fait qu'on est dans les manifestations, on s'en prend plein la figure, et là pourtant on est en train de défendre les intérêts de l'État, et de l'autre côté quand on sauve des gens on est des héros. Alors c'est quand même un peu paradoxal cette situation.
Bertrand est gendarme également, alors Aurélie est restée avec nous et je salue Bertrand. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous êtes gendarme en activité toujours ?
Non, du tout. Je suis j'interviens assez régulièrement sur certaines RTL pour divers sujets touchant la gendarmerie, que ce soit la sécurité routière ou autre chose. Et là, aujourd'hui, nous venons de perdre trois collègues, même si c'est on ne les connaît pas, mais on dit que la gendarmerie est une grande famille, la grande famille qui est composée de la gendarmerie, mais aussi de tous les services de secours. Trois morts de trop, trois morts qui ont donné leur vie pour sauver et faire en sorte de mener à bien leur mission qui était de sauver une personne. C'est vrai que c'est rageant. Bon, ils sont tombés visiblement en face d'un tireur chevronné, bien armé, et puis ils l'ont payé de leur vie quoi pour sauver cette femme.
Je rappelle que la gendarmerie, ce sont des militaires. Hein. Il y a 100 000 gendarmes à peu près en France aujourd'hui.
C'est ça, oui, à peu près. Et donc, bon, si vous voulez que je rebondisse un petit peu sur le soutien que peut apporter l'État et la gendarmerie aux orphelins et aux veufs, etc., à la famille, moi je peux en témoigner puisque j'ai perdu mon frère qui s'est suicidé suite à un drame puisqu'il était l'épouse d'une femme qui a été tuée par un camion fou dans la côte de Neuchâtel. Donc il n'a pas supporté et s'est suicidé quelques mois plus tard. Son fils a été suivi et soutenu. Bon, il a été repris par mes ex-beaux-parents puisque je suis divorcé maintenant. Et la gendarmerie a toujours été présente pour suivre l'évolution de cet orphelin. Et mon frère qui a été blessé grièvement en service et où le chirurgien disait pour moi vous êtes inapte au travail pendant 3 ans. Et il faut savoir qu'un gendarme ne peut pas être inapte au travail pendant 3 ans puisque c'est de toute façon au bout de 6 mois il doit quitter le logement de fonction et il touche demi-solde. Et il a eu un soutien de part de la hiérarchie puisque mon frère n'était pas, je veux dire, loin d'être feignant. Il a travaillé de concert avec le chef de corps et le médecin colonel. Ils l'ont fait, je ne vais pas dire traîner parce qu'il allait au bureau. Le médecin lui a dit vous faites ce que vous pouvez faire. Si vous voulez le faire. Et en fait, ils l'ont maintenu. Il a eu ses permissions. Ils ont traîné. Ils ont fait des arrêts de travail, etc. Il n'a jamais eu les 6 mois pour devoir quitter son logement. Donc il y a une réponse de la hiérarchie qui peut être adaptée à la situation et au drame.
Actualité dramatique, et on entend l'émotion de Bertrand comme on écoutait l'émotion de Daniel et celle d'Aurélie. Nous allons poursuivre évidemment avec ces témoignages. On le disait avec Christelle, les journalistes que nous sommes, lorsque nous disons trois gendarmes tués, et pour ceux qui reçoivent l'information, c'est une ligne, c'est quelques mots, mais derrière ces mots, il y a effectivement ces des 23 décembre qui seront jamais oubliés, des Noëls qui ne pourront plus jamais être les mêmes, et des familles qui sont endeuillées, des parents, des enfants, des épouses, des concubins. Effectivement, la seule chose que l'on peut faire, c'est compatir, bien évidemment, et avoir une pensée pour ces familles. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Une actualité dramatique en ce 23 décembre et les auditeurs sont nombreux à réagir à ces trois gendarmes tués, quatrième blessé. Gérald Darmanin était sur place. Emmanuel Macron a parlé de héros. Lolita est là puisque Lolita, vous habitez Toulouse et vous êtes la grand-mère d'un policier et vous êtes la mère d'un ex-gendarme devenu policier municipal.
Exact, monsieur Pascal Pro, oui. Et je vous appelle parce que ça fait déjà un petit moment que je suis peiné d'entendre tout ce qu'on dit sur la gendarmerie, la police. Mais là, à entendre que trois hommes sont morts à la veille des fêtes, je suis marqué par ça. Mais, et maintenant, on les appelle des héros, monsieur. Mais il faut qu'ils soient morts, ces gens, pour qu'on les considère comme des héros. C'est ça qui me fait mal, c'est ça qui me fait mal. Parce qu'on les a tellement salis. Et là, il faut que ces hommes soient tués dans leur fonction et qu'on s'aperçoive qu'ils donnent très souvent leur vie pour sauver des gens, pour faire respecter la loi, pour... voilà, et ça me fait très mal.
Je comprends. Je comprends. Alors évidemment, je vois dans le sous-texte, et vous êtes la deuxième personne qui semble dire ça, il y a dans ce que vous dites, ce qu'en tout cas je crois percevoir, c'est que les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui salue le courage de ces gendarmes en les traitant de héros, est à mettre en opposition avec son intervention l'autre jour sur les policiers lorsqu'il a parlé de violence policière. C'est ça que je décode.
Monsieur. Oui, mais oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui me fait mal parce que ils sont toujours des héros et quand ils sont dans les manifestations, c'est parce qu'ils défendent les lois de la République. Et là, c'est parce que ils devaient intervenir sur ce personnage qui était odieux avec sa femme. Et là, parce qu'il meurt, on dit que ce sont des héros. Non, mais ce sont des héros, je crois, tout le temps.
Évidemment, il n'est pas l'heure d'entrer dans des polémiques, mais ce que voulait dire sans doute le président de la République, c'est que certains comportements de certains policiers les mettent en dehors de la loi, parfois, et par définition, ils ne deviennent plus des héros, si j'ose dire. Mais je crois que c'est pas l'heure vraiment d'entrer dans ce type de polémique.
Voilà, c'est tout. Mais ils sont si peu à être en hors norme.
C'est vrai, vous avez raison.
On ne peut pas savoir, c'est que eux aussi subissent. Moi, j'ai mon petit-fils qui est dans la police nationale à Paris, et je peux vous dire que c'est un jeune de 23 ans. Et ce qu'il entend, comment on leur parle, et c'est des hommes aussi, c'est des hommes. Il y a des moments où il y a des difficultés, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut dire qu'ils sont tous plus ou moins mauvais. Moi, ça me fait mal. Et là, je pense à ces femmes, à ces mamans, à ces enfants qui perdent leur papa, leur fils, leur père, à la veille de Noël. Et je crois que c'est ce qui touche le plus, qui touche le monde, quoi.
Bien sûr.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr. Et
souvent, j'ai voulu passer à l'antenne avec vous, parce que j'ai eu souvent des hauts le cœur d'entendre tout ce qu'on dit sur eux. Et là, j'ai dit non, mais il faut les défendre.
Mais je suis d'accord, mais convenons que dans cette émission et dans d'autres, j'ai toujours envie de saluer le travail des policiers, de saluer leur courage, de saluer leurs difficultés sur le terrain. Ils se font insulter, caillasser, que ce soit durant les manifestations des Gilets jaunes, avec les Black Blocs, etc. Que c'est un métier particulièrement rude et sans doute plus rude qu'il ne l'était avant, puisqu'en plus, on ajoute une forme de mépris parfois pour eux et que les citoyens les aident pas assez. C'est-à-dire que quand tu rencontres un gendarme, quand tu rencontres un policier, obtempérer, immédiatement, c'est une façon de l'aider. C'est une façon de l'aider et de le respecter. Et souvent, j'ai dit ces choses-là. Voilà. Il me semble qu'il y a une part d'éducation que tous ensemble, on devrait aider le travail de la police, me semble-t-il.
Ben oui.
Merci Lolita.
De parler d'eux comme vous en parlez.
Je vous remercie grandement de votre témoignage et je ressens également dans votre voix l'émotion et la tristesse. Il est 13h24. Les autres sujets du jour avec Laurent Tessier.
Vous pouvez rendre hommage au 3210 à un immense acteur, Claude Brasseur. Pour les plus jeunes, c'était Jackie, le doyen du camping. Pour d'autres générations, Vidocq ou le père de Vic dans la Boum.
Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non?
Ça?
Il y a la surboom de samedi.
Quelle surboom?
Boum, pas surboom.
C'est chez qui?
Un mec, tu connais pas.
Enfin, comment il s'appelle?
Raoul.
Raoul, comment? À ton âge, tu ne peux pas sortir sans...
Ça fait rien, laissez tomber.
Et qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
C'est une scène que tout le monde connaît. Hein.
Oui.
Elle a été raccourcie, là, en plus.
Oui, en plus.
Moi, j'aime bien dans sa version longue.
Claude Brasseur nous a quittés hier à l'âge de 84 ans. Il a marqué des générations, une voix rocailleuse que nous n'oublierons jamais. L'acteur a marqué 6 décennies de cinéma et de théâtre français. Et nous attendons vos appels pour lui rendre hommage au 3210. Et nous l'avons appris il y a un peu moins d'une heure. La chanteuse franco-israélienne Rika Zaraï est décédée à l'âge de 82 ans. Un tube des années 70 revient forcément.
Ce soir, nous irons danser sans chemise, sans pantalon.
Est-ce que vous dansez sans chemise, sans pantalon, Pascal Pro?
Alors, comment dois-je comprendre cette question? Est-ce que je danse en enlevant ma chemise et mon pantalon ou est-ce que je danse sur cette chanson de Rika Zaraï? Eh bien écoutez, je danse assez peu nu, si c'est votre question. Mais en revanche, on le disait aussi avec Christelle tout à l'heure, on a tous les mêmes souvenirs, les gens de 50 ans ou 60 ans, parce qu'il n'y avait qu'une télé. Et Rika Zaraï était incroyablement présente à la télé dans les années 70. Alors qu'il y a... Oui, il y a deux chansons qu'on connaît.
Ça, oui.
C'est pas Charles Aznavour. Il y a deux chansons effectivement qui sont celles-là d'ailleurs. Et puis après, c'était une figure aux grosses têtes, une figure à la télévision. On en parlera tout à l'heure. On sera peut-être avec Fabien Lecoeuvre pour en parler. Mais là, on va parler de Claude Brasseur, puisque depuis ce matin, dans la matinale notamment, il y avait beaucoup de témoignages. Nous sommes avec Céline, peut-être. Bonjour Céline.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez 47 ans, donc vous n'avez pas sans doute vu le film La Boum à l'âge de l'adolescence. Vous aviez 7 ans sans doute.
Je l'ai vu un tout petit peu plus tard, parce que j'étais trop jeune, mais mes parents m'ont laissé regarder, hein, parce que j'ai des amis qui n'avaient pas le droit de le voir, moi.
Ah bon?
Non, pourquoi? Ça, je savais pas.
Écoutez, franchement, c'était pas carré blanc quand même, La Boum, il n'y avait rien de... Ça, c'est extraordinaire.
Les parents avaient peur que leur fille sorte ce soir ou s'inspire de cette histoire.
Ah bon,
je
voudrais les voir, ces parents-là. À mon avis, ça doit être des parents, sympas.
François Béréton, c'est un bon papa.
François Béréton, exactement. Vic Béréton, François Béréton. Il est dentiste.
C'était des bons parents, quand même.
Oui, et puis, oui, ils sont formidables. Ils sont formidables avec des histoires de couple comme il peut en arriver.
C'était mignon. Moi, ma fille, elle a adoré La Boum, La Boum 1, enfin La Boum 2.
Mais elle a quel âge, votre fille, par exemple?
13 ans.
Et elle a 13 ans, oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pourquoi, à votre avis, cette génération-là, le film, donc, elle le découvre quasiment 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, même. Il a 40 ans pile, le film. Hein. Il est sorti en décembre 80.
Oui, il a 40 ans, j'ai vu ça.
Pourquoi ça touche autant de monde que ça et toujours encore?
Parce que je crois qu'on n'arrête pas de leur rabâcher que les années 80, c'était bien. On leur dit. Mmh. Dans les années 80, on faisait ça. Dans les années 80, il y avait telle musique, il y avait tel acteur. Voilà, on leur dit. Moi, je vois avec mon mari, on n'arrête pas de dire, ouais, dans les années 80, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. C'était la liberté.
C'est vrai, je vous le confirme, j'en étais. 13h28, Céline, on marque une pause. Ça va être la chanson de Noël. Parlez-nous de Claude Brasseur. Alors, il y a le brasseur Jackie Pic. Jackie, hein, il s'appelle Jackie Pic.
Tout à fait.
Il y a le brasseur exigeant. Théâtre, le souper de Jean-Claude Briseville, mais aussi un Don Juan de Marcel Bluval avec Michel Piccoli. Et c'est un peu la marque de fabrique de ces comédiens de cette génération. C'est-à-dire que tu peux faire des choses extrêmement populaires, comme Camping, et des choses un peu plus haut de gamme. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne après-midi sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Demain, c'est le 24 décembre, je n'apprends rien à personne et on sera là d'ailleurs demain avec Greg Caradoni que je salue. On essaiera de faire un spécial Noël avec des chansons.
J'ai préparé une playlist. Déjà.
De donner un peu de légèreté, pourquoi pas, à cette actualité qui est sombre ces dernières heures. Et tous les jours, vers 13h30, nous sommes avec un auditeur pour un souvenir de Noël. C'est le cas avec Mathéo qui a 22 ans, qui est étudiant. Bonjour Mathéo.
Bonjour Pascal.
Votre souvenir de Noël?
Ah, mon meilleur souvenir de Noël, je pense que c'est en famille à la maison. Quand j'étais un petit peu plus petit et qu'on recevait mes grands-parents, mon frère et ma sœur, mon frère qui est militaire et qui revenait de mission quand ça lui arrivait d'être là pour les fêtes, et qu'on fêtait tout ça en famille autour du sapin, qu'on mangeait quand la famille était encore là. Je pense à mon grand-père qui n'est plus de ce monde, mais j'ai toujours ce souvenir au moment de Noël où voilà, on était gâtés, on mangeait ensemble, et c'était un excellent moment que j'attendais avec impatience.
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu?
Oh, le plus beau cadeau, c'est difficile. J'ai beaucoup de chance, j'ai été gâté à chaque fois. Plus beau cadeau, je vais vous dire un truc qui va peut-être paraître cucu, mais c'est d'avoir tout le monde autour de la table.
Mais je peux poser la question à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont peut-être en voiture, qui sont en train de se déplacer, qui préparent peut-être déjà Noël dans leur cuisine, qui sont au salon. Je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. Réfléchissez, quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu? Celui, en fait, qui a déclenché la plus grande émotion. C'est ça que ça veut dire, le plus beau cadeau. Greg Caradoni.
Je suis en train de réfléchir, Figaro.
Parce que moi aussi, en même temps que je pose la question, voilà. Je dis, quelle est la fois? Alors, c'est forcément, les émotions sont souvent plus fortes quand on est enfant. Forcément. Peut-être. Pour les cadeaux, en tout cas. Pour les cadeaux.
Et vous avez retrouvé votre plus beau cadeau, du coup?
Écoutez, et vous?
Moi, je pense que c'est une nuit, je me suis réveillé la nuit de Noël pour aller aux toilettes. Et alors, le Père Noël était déjà passé. Et là, il m'avait offert une batterie. Et donc, j'ai découvert et imaginé derrière tous ces cadeaux, les uns empilés sur les autres, qui étaient assez volumineux. Du coup, je me suis dit, mais il m'a vraiment apporté ça. Et alors, ma maman m'a raccompagné au lit en me disant, bah, on verra demain matin. Et ça m'a marqué. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, peut-être.
Mathéo, vous avez trouvé à part oui. La réunion autour de la famille?
Greg m'a aidé, mais c'est vrai que moi, ça date de l'année dernière où c'est un cadeau qui était fabuleux, qui était un piano, où j'ai eu un piano et depuis, il n'y a pas un seul jour que je passe sans que je sois proche du piano, toujours à pianoter plus ou moins bien, mais c'était peut-être un des plus beaux que j'ai jamais eu. Ou un hélicoptère télécommandé quand j'étais petit qui m'a refait ma vie pendant de longues années.
Bon bah écoutez, merci Mathéo. Quelle est la chanson que vous avez proposée pour ce jour du 23 décembre?
Feliz Navidad.
Ah, ça m'a échappé.
Espagnol. Ah bah oui, je suis sûr que vous connaissez.
Feliz Navidad. Feliz comment?
Feliz Navidad, joyeux Noël il me semble, en espagnol.
Ah, Navidad on dit en espagnol? C'est Navidad en espagnol?
Sous le contrôle de Laurent Tessier, mais oui, c'est ça.
Ah, moi j'ai pas fait espagnol en deuxième langue. De mon temps, on faisait allemand première langue et anglais première langue.
On dit comment Joyeux Noël en allemand du coup alors?
Weihnachten.
Ah très bien. J'étais allé vous piéger, mais non.
Non, je crois que c'est Weihnachten, Noël, il me semble.
Oui, c'est ça.
Oui, il me semble. Bah écoutez, c'est pas mal comme chanson. On l'écoute quelques secondes. Feliz Navidad. Ah bon, l'année dernière, j'avais dit que j'aimais pas la chanson, ouais, mais je me suis adouci pendant un an, parce que j'aime pas du tout, mais j'ose plus le dire.
Vous êtes à l'antenne, Pascal.
Ah oui, bah, non, c'est parce que c'est Laurent Tessier qui a dit ça, hein. Laurent Tessier m'a dit, je sais pas si c'est passé à l'antenne ou si c'est passé dans les ordres. Il m'a dit, l'année dernière, t'as dit que t'aimais pas du tout cette chanson.
Il vous l'a dit dans le casque et vous avez répondu à l'antenne.
Alors j'ai répondu à la... On met les auditeurs dans la confidence, pas de private joke à l'antenne. Bon, écoutez, Mathéo, qu'est-ce que vous faites demain soir?
Eh ben écoutez, je suis en famille, en comité réduit pour demain, puis ensuite bon, on se retrouve avec un petit peu plus de famille pour les jours qui suivent.
D'accord, vous êtes combien?
J'ai pas le droit de le dire, sinon je vais me faire taper sur les doigts.
Ouais, vous avez l'air d'être beaucoup. Est-ce que vous avez fait vos cadeaux?
Non, j'ai pas encore fait les cadeaux.
Il est temps quand même, 3 décembre. Vous avez qui? Vos parents sans doute?
Ah ben ils sont en train d'écouter, faut pas que je le dise.
Non, ça vaut
mais
pas.
Mais oui, j'ai encore un petit peu de monde. Oui.
Bon,
je peux vous aider moi, Mathéo, si vous voulez.
Ah oui, le cadeau.
Je sais pas si vous avez des petits frères ou sœurs, ça va être un jouet, mais alors un jouet exceptionnel. Vous connaissez les Lego, et alors là, je vous offre un Lego ce midi, nouvelle génération. C'est un hidden side, c'est-à-dire que c'est le même principe que les Lego qu'on connaît. Vous construisez votre bus, sauf que avec votre téléphone portable, vous téléchargez une application et en passant l'appareil photo sur le bus en Lego, il y a des personnages qui vont apparaître, etc., etc. C'est un jeu interactif, évolutif. Il faut avoir un peu plus de 8 ans pour jouer. Et je vous offre ça parce qu'en plus ce soir sur M6, il y a une émission spéciale avec Eric Antoine sur le concours de construction de Lego. Voilà Mathéo, vous savez.
Merci, c'est super sympa. Je vous remercie beaucoup. Mon petit neveu, je pense, va adorer.
Bien, vous nous direz ça.
Eh ben oui, bien sûr. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Mathéo, 13h37, nous marquons une pause.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Claude Brasseur est mort, il avait 84 ans, il était dans nos vies depuis si longtemps qu'il y a beaucoup d'émotions au standard. Nous sommes avec Françoise. Bonjour.
Bonjour Pascal, oui, c'est dur aujourd'hui votre émission. Donc je vais essayer d'apporter une touche de gaieté. Je connaissais pas personnellement Claude Brasseur, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aurait pu faire partie de ma famille. Il y avait un abord, une simplicité, c'était des tempéraments de cinéma, des tempéraments d'acteurs et de comédiens. C'est même pas qu'acteurs, c'est des comédiens, des familles. Pierre Brasseur, Claude Brasseur, Alexandre Brasseur... Et il y avait une simplicité, voilà, il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait pas de classe sociale. C'était des comédiens qui étaient abordables, on aurait pu leur toucher le bras, les embrasser, ça aurait été spontané. On a perdu tout ça, je crois. C'est une certaine nostalgie, parce que c'est une époque qui s'en va. Comme l'a dit Mathilde Seigné très bien hier... Je crois qu'il y a une page qui tourne et comme on n'a pas de perspective, c'est particulièrement dur. Moi, ça
vous trouvez
beaucoup.
Par exemple qu'il n'y a pas l'équivalent dans le cinéma français de Claude Brasseur aujourd'hui?
Si, mais il n'y a plus cette simplicité de contact. Le contact physique, le contact visuel, le contact...
Mais vous ne trouvez pas que, par exemple, un Vincent Lindon peut être un profil de comédien qui peut jouer à la fois un bûcheron, mais aussi un notaire, qui peut jouer beaucoup de choses et à chaque fois être crédible dedans et avec une simplicité ou un rapport au public qui peut s'apparenter à ces comédiens dont on parle?
Ils n'ont pas un abord... On ne peut pas les aborder facilement. Moi, ma maman... rencontrer Jean Rochefort parce qu'il était dans un café, il lui a laissé sa place, vous voyez, c'était Jean Rochefort, c'était un monsieur, ma maman était en âgée, et c'est à sa voix qu'elle l'a reconnu. Donc je pense qu'au niveau des contacts humains, il y a quand même quelque chose qui s'amenuise, vous voyez, c'est...
Quel est le film que vous préférez de Claude Brasseur?
Moi, c'est la série Vidocq.
Ah oui, alors c'était réalisé par Marcel Bluval, c'était dans les années au tout début des années 70. Il n'est pas le premier Vidocq en plus, parce que celui qui jouait Vidocq était très malade et décédé. Et c'est donc Claude Brasseur, et c'est comme ça qu'il était devenu immensément populaire.
Oui, et aussi un éléphant, ça trompe énormément, parce que ils sont tous malheureusement, sauf Pierre Richard, mais...
Ah, Pierre Richard, il n'est pas dans un éléphant.
Non, il n'était pas dans un éléphant, donc je me trompe.
Non, il y a Jean Rochefort, Étienne Dorcey, oui. Victor Lanoux, Bouly, Guy Bedos, oui. Qui joue Simon Messina, oui. Et il y avait donc Brasseur qui jouait Daniel, qui jouait un homosexuel. Et je suis pas sûr qu'à l'époque, tout le monde ait même vu que c'était un rôle d'homosexuel, tellement c'était subtil. Mais c'était très moderne de mettre dans une compagnie de quatre hommes ensemble qui se marrent, etc., un homosexuel. C'était voyez, le scénario quoi, d'Yves Robert.
J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de tabou. On n'était pas dans la bien-pensance, ce qu'il faut penser ou pas, si c'est bien ou pas. On se posait beaucoup moins de questions, il y avait un naturel, une simplicité, enfin... On évoquait beaucoup de sujets, finalement, d'une manière rigolote. Et ça ne nous posait pas de problème métaphysique. Enfin, voilà, moi, ça me manque quand même, cette époque-là. J'ai 66 ans. Et
ce qui est terrible, c'est qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire que le scénario était de Jean-Louis Dabadie. Jean-Louis Dabadie, il est mort cette année. C'était Yves Robert, il est mort. Il y a également Daniel Gélin qui joue dans Nous irons tous au paradis. Il est mort. Daniel Delorme. Elle est morte, c'était la compagne d'Yves Robert. Et reste vivant, Marthe Villalonga. Et également, je pense que Jean-Pierre Castaldi a un petit rôle dans Nous irons tous au paradis. Et eux pourraient témoigner, évidemment, de cette période-là. Merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup.
Merci, Pascal. Merci. Bonne fête à toutes.
Ben, c'est très gentil. Voilà. Jacques est là. Jacques qui habite le Jura et qui veut rendre hommage également à Brasseur.
Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Ben, je suis de la même génération que Françoise, j'ai 65 ans, et moi j'ai découvert Claude Brasseur avec Vidocq. Hein, ça a été un des premiers films que j'ai vu avec mes parents. Hein, puisque
c'était un téléfilm à l'époque, c'était une série.
Oui, téléfilm.
C'était pas un film au cinéma. Hein.
Mais ça m'avait marqué cette série qui était superbe. Et puis Claude Brasseur, ben, c'était une gueule, quoi. Capable de jouer un petit peu tout, le salaud, le mec sympa. La gueule du cinéma, hein, du cinéma français, du théâtre. Il a pu tout faire, cet acteur magnifique. Et moi, c'est pareil, nous irons tous au paradis, c'était à mourir de rire. Et puis je rebondis sur ce que disait François, c'est être homosexuel dans les années 70, c'était pas marrant quand même, hein, c'était pas facile à avouer. Et c'est vrai que c'était très subtil dans le film, mais c'était pas simple dans ces années-là. Et voilà, un immense acteur qui s'en va. Cette année 2020, eh ben, on en fait des enterrements. Hein. Ça a des canis secs.
Oui. Michel Piccoli, Jean-Louis Dabadie, Caroline Cellier, l'autre jour. Il y a beaucoup de comédiens qui sont décédés.
Ah ouais, cette année 2020, c'est terrible. Hein. Et puis bon, Brasseur, moi je l'ai vu après dans La Boum, etc. etc. C'était un gars qui était capable de jouer de tout. En plus, il a fait quand même du théâtre. Hein. Un grand monsieur au théâtre aussi, hein, pas l'oublier. Et donc c'est des pans de la France qui s'en vont un petit peu. Et je suis d'accord avec vous concernant Vincent Landau, c'est peut-être celui qui peut représenter le mieux quelqu'un comme Claude Brasseur.
Même s'il a déjà, lui, il n'est pas jeune, hein, si j'ose dire, il a une petite soixantaine d'années, hein, déjà, Vincent Landau, hein, mais il y a une filiation, hein, peut-être.
Pareil, capable de jouer tout, quelque chose de sympa, rigolo. Puis il a eu des rôles, Vincent Landau, terribles à jouer. Et on peut les comparer tous les deux, effectivement.
Les nouvelles aventures de Vidocq, série télévisée en 13 épisodes de 55 minutes. C'est en couleur, à l'époque c'était très novateur. Ça a été diffusé à la télévision entre le 5 janvier 1971 et le 10 décembre 1973 sur la première chaîne de l'ERTF. Après il y a eu des redives, bien évidemment. Et Claude Brasseur avait pris le rôle de Bernard Noël, qui était malade et qui était décédé. Mais il n'y a que 13 épisodes et on voit comment c'est présent dans notre mémoire collective, ça a duré pendant 2 ans, toujours pour la même raison. C'est-à-dire que c'était à 20h30, il n'y avait qu'une chaîne, c'est comme Belphégor. Donc toute la France regardait ça. Donc il y avait 15 millions de gens ou 20 millions de gens qui regardaient ça. Donc ça a imprimé. Et comme en plus c'était de qualité, c'était Marcel Bluval, qui est toujours vivant, Marcel Bluval, marié à Daniel Lebrun et qui avait fait un très beau Don Juan en 66. 13h48, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est une génération exceptionnelle de comédiens qui ont dominé le cinéma français 70, 80, 90. C'est Philippe Noiret, c'est Claude Richer, Bruno Kremer, c'est Annie Girardot, c'est Jeanne Moreau, c'est Romy Schneider, c'est Catherine Deneuve, c'est Michel Serrault, c'est Jean Rochefort, Lanoux, Bedos, etc., etc. Jean-Louis Trintignant d'ailleurs, il y a des survivants de cette époque. Nous sommes avec Véronique qui habite dans la Sarthe.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Véronique. et merci d'être avec nous. C'est à la fois une époque et comment dire, c'est une France patrimoniale.
Oui, puis c'est une époque aussi où on allait beaucoup au cinéma, je pense. Et quand on avait ces acteurs-là dans un film, on savait que c'était un bon film. Donc on se précipitait non seulement pour le film, mais pour voir l'acteur aussi. Ils avaient une présence à l'écran qu'on retrouve, on a l'impression, moins maintenant. Ils crevaient l'écran, en fait. C'était vraiment, ils avaient un charisme extraordinaire. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que tous ceux que vous venez de citer, ils ont vraiment marqué nos vies, quoi. Et même maintenant, quand il y a des films, moi, à la télé, il passe des films anciens, qui datent de 60, que je regarde pas forcément, mais quand je vois effectivement Brasseur, Belmondo, etc., Riche et tout, je regarde.
Alors, ce qui est drôle, c'est que les deux figures tutélaires du cinéma français de ces années-là sont toutes les deux, ces deux figures vivantes, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, qui ont dominé, évidemment, les années 70 et 80.
Oui, ceux-là sont toujours là, effectivement.
Belmondo est de 33 et Delon est de 35.
Ils étaient un petit peu plus jeunes. Ils avaient quoi ?
Il était de 36, Claude, Claude Brasseur. Mm-hmm. Donc c'est vraiment... Ouais. Piccoli était plus vieux. Catherine Deneuve est un peu plus jeune. Mais tous ceux qui ont dominé les années 70, par définition, ont aujourd'hui passé 80 ans. Quel est le film que vous préfériez de Brasseur ?
Je sais pas, parce que j'ai bien aimé Le Viager, j'ai bien aimé La Banquière avec Romy Schneider, j'ai bien aimé
de Francis
Giraud,
Les Saintes Glaces. Saintes Glaces, ça c'est un film de Lautner, 74, avec Delon, c'est la seule fois où il a joué avec Delon.
Ouais, La Boum, oui, effectivement.
Ah, La Boum, bien sûr. La Boum qui l'a fait rentrer dans la...
Oui, voilà, qui l'a vraiment...
Dans le foyer des Français.
Oui, voilà, donc... Non, je peux pas dire que j'ai le film préféré, mais j'aimais son jeu. J'aimais son jeu, j'aimais sa voix, j'aimais sa... Voilà, et même quand il n'était pas au cinéma, quand il était interviewé, c'était un homme qui avait l'air d'être adorable, quoi, qui était bien, quoi.
C'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, ces comédiens-là étaient très présents en dehors de leurs films. Ouais. Ils étaient présents dans des émissions de Chancel, Le Grand Échiquier, dans des émissions de variété. Je me souviens, il y avait une émission qui s'appelait Mardi Cinéma avec Pierre Tchernia. On les entendait sur RTL avec Raymond Forlani. Ils étaient très présents et ils avaient beaucoup de charme tous, au-delà de leur métier, pour raconter leur vie. C'est très vrai ce que vous dites, Véronique.
Oui. Et on avait vraiment l'impression que tous y formaient une grande famille, qu'ils se marraient bien, en fait. On avait vraiment l'impression qu'ils se connaissaient, qu'ils se marraient bien, que quand ils étaient sur le tournage, ça devait être des grandes parties de rigolade.
C'était une réalité, d'ailleurs.
Oui.
Parce que le film des Enfants du Paradis et de l'éléphant a été fait dans la propriété d'Yves Robert, où le samedi et dimanche, c'était la bande des amis, avec Jean-Loup Dabadie, etc. C'était une réalité.
Et moi, j'ai un peu connu ça, j'étais très jeune, parce que j'étais avec un ami au lycée, Thierry Cadio, qui avait son père, Cadio, qui faisait des scénarios de Claude Zidi. Donc, il y avait une maison où il y avait effectivement souvent des artistes qui passaient, etc. Donc, le fils, lui, s'était installé dans le garage, et nous, les jeunes, on se retrouvait tous dans le garage. Et on dormait tous, et le matin, on rentrait dans la maison. Mais ils étaient hyper sympas, parce qu'ils achetaient des croissants pour tout le monde. Ils disaient, allez, les jeunes, machin. Ils étaient hyper simples. C'était vraiment des gens qui étaient hyper abordables. Et c'est vrai que nous, on était un peu intimidés, parce qu'ils commençaient déjà à être un peu connus. Mais eux, pas du tout, quoi. Ils nous mettaient super à l'aise et tout. C'était vraiment des gens qui étaient des gens bien. Je pense qu'il y avait des bonnes valeurs.
Merci beaucoup. Véronique, qui parlait aussi souvent de son enfance. Claude Brasseur, ses parents s'étaient très peu occupés de lui. Pierre Brasseur et Odette Joyeux. Ouais. Et c'est parfois un moteur chez ces personnalités-là d'aller dans la lumière ensuite. Michel Sardou, fils de comédien, a eu une enfance aussi, non pas malheureuse d'ailleurs, c'est pas le mot, mais avec des parents assez, assez lointains. Et on peut penser également à Alexandre Brasseur, qui est le fils de Claude Brasseur, et qui perpétue cette tradition dans la famille. Il était du bâtiment, je crois que c'est Patrick Chenet qui disait cela, en parlant de lui, il était né là-dedans, quoi. Merci Véronique, merci beaucoup.
Il va nous manquer.
Il nous manque déjà, et en revanche, il reste ses films, il reste quelques musiques aussi, qui nous rappellent, pourquoi pas La Boum, par exemple. Ça, c'est un film, quand t'es comédien et que tu fais un film comme ça, qui est presque un film de génération, où tu entres une fois dans le foyer des Français, évidemment, et que tu les fais pleurer, que c'est émouvant, c'est un cadeau pour un comédien. Parfois, tu peux être un immense comédien et pas avoir la chance d'avoir un rôle comme ça, un film comme ça, qui est évidemment pas le plus grand film du monde, La Boum, mais c'est pas le problème. C'est juste un film qui, à un moment, touche une génération. Merveilleusement écrit par Daniel Thompson, où chacun peut s'identifier, c'est nos vies. Voilà, ce film raconte nos vies. Lorsque le père dit « Chez qui tu vas ce soir ?»« Comment il s'appelle ?»« C'est qui chez ce Raoul ?»« Et je vais appeler les parents pour les remercier, etc. » C'est exactement les vies que nous vivions quand nous avions 13-14 ans. Et que vivent sans doute toujours les plus jeunes avec leurs parents. Greg,
je vous écoute. Oui.
On va continuer de parler avec Henri-Jean Serva tout à l'heure. On parlera peut-être de Rick Azaray également, puisque Rick Azaray est décédé aujourd'hui. Elle était de 1938. Elle est décédée, elle avait eu un AVC en début d'année.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est quasiment 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et on poursuit, il vivra évidemment l'hommage que les auditeurs rendra à Claude Brasseur. Nous sommes là avec Franck. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Pascal.
Quel est le film que vous avez préféré?
Oh, c'est l'époque de mon époque. J'avais 14 ans, il me semble bien en 84. Je dirais La Boum. J'en avais 14 ans.
Vous nous en parlerez dans une seconde après le flash d'Aurélia Valérier.
L'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, va devenir entraîneur du FC Nantes pour la fin de saison. C'est une source interne au club qui divulgue l'information, une information qui devrait être officialisée ce jeudi. La chanteuse franco-israélienne Rick Azaray est morte aujourd'hui. Elle était notamment connue pour son tube Sans chemise, sans pantalon, sorti dans les années 70. Rick Azaray, c'est plus de 29 millions de disques vendus dans le monde. Elle est décédée à l'âge de 82 ans. Toute la classe politique rend hommage aux 3 gendarmes tués et au 4e blessé aujourd'hui. Le drame s'est produit cette nuit à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme alors que les militaires intervenaient pour violence conjugale. Le tireur présumé de 48 ans a été retrouvé mort dans son véhicule quelques heures plus tard. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. Après l'accord signé entre la France et la Grande-Bretagne, les premiers Eurostars sont arrivés à Paris ce midi. Pour circuler, un test Covid négatif est obligatoire. Et pour ce qui est des poids lourds qui attendent toujours pour traverser la Manche, il faudra patienter plusieurs jours selon le gouvernement britannique pour désengorger l'ensemble du trafic. Le début de la vaccination prévue pour ce dimanche en France, notamment dans l'unité de séjour longue durée de l'hôpital René Muret à Sevran en Seine-Saint-Denis. Un autre établissement est concerné en Bourgogne-Franche-Comté. Au total, une dizaine de personnes devraient être vaccinées. Enfin, la météo de ce mercredi, pas mal de perturbations sur tout le territoire. Seuls l'Occitanie et la Corse sont un peu épargnés. Côté température, comptez 13 à Lille, Strasbourg et Perpignan, 14 à Paris et Bayonne, 9 à Brest et enfin 10 degrés à Annecy.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
À 14h01, on va être avec Franck dans une seconde. Il nous disait qu'en 84, il regardait La Boum. Laurent Tessier, on va être avec Henri-Jean Serva.
Un acteur qui réunit toutes les générations. Claude Brasseur nous a quittés hier à l'âge de 84 ans. Il nous a marqué sur le petit, le grand écran, 6 décennies de cinéma et de théâtre. Et dans une interview chez Patrick Sébastien en 2004, Claude Brasseur évoquait son paradis.
Quand je serai mort, j'aimerais aller dans un endroit, non pas où on retrouve tous les gens qui sont morts, parce qu'il y a quand même pas mal de connards, mais j'aimerais aller dans un endroit où on rencontre les gens qui sont pas nés. J'aurais 2-3 trucs à leur dire, et puis il doit y avoir des pointures quand même là, où il doit y avoir quelques salopards aussi, bien sûr.
Une voix rocailleuse, populaire, un touche-à-tout, plus de 110 films, et chaque génération retiendra son Brasseur, Vidocq à la télévision dans les années 70, un éléphant, ça trompe énormément, et cette partie de tennis dont nous irons tous au paradis, une scène culte.
Écoute, poulet, tu joues, oui? Ah, je sais que Désir a du mérite, hein, la vie avec Pépé.
Qu'est-ce que tu dis?
Rien, allez.
Non, parce que si on commence avec la vie privée, moi j'ai 2 ou 3 balançoires pour toi si ça t'intéresse. Hein.
Ah bon? Lesquelles?
Je voudrais pas faire couler ton email.
Moi je me mets pas de email, mais l'autre là, tu sais celui qui joue debout, il se met des bigoudis. Ça l'a pas empêché de se tirer avec ta femme.
Et puis son rôle de père de Vic de Sophie Marceau dans La Boum dans les années 80.
À toi l'honneur.
Ça finit tard.
Bon, puis ça suffit. Avant tout, une règle. T'es malade, en panne, enceinte, droguée, un coup dur, tu téléphones.
Coup dur, il n'y a que ça pour vous les parents. Pas que les coups durs dans la vie. On m'a piqué mon sac, on a marché, il pleuvait. Mais c'était pas des coups durs justement parce qu'on était bien, j'étais heureuse et j'avais pas envie d'entrer.
L'emmerdement commence.
Quoi, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est heureuse.
Et pour les plus jeunes, c'était Jackie, le doyen du camping des Flots Bleus. Jackie Pic, toujours installé avec sa caravane à l'emplacement 17.
Qu'est-ce qui se passe?
Au moment des réservations, l'ordinateur vous a changé d'emplacement.
Comment ça, changé d'emplacement? Je suis pas au 17.
Non, vous êtes au 18.
Depuis bientôt 30 ans, je fais 697 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur et madame Pic ne passeront pas leurs vacances aux Flots Bleus.
Et Claude Brasseur, c'est aussi un homme qui avait le sens de la punchline.
C'est exactement la même chose que les metteurs en scène. Les préservatifs, ça rassure quand on en a un, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce que c'est bon?
L'un des plus grands acteurs de sa génération, un géant, a salué l'Académie des Césars. Et avec nous, pour lui rendre hommage, le journaliste et écrivain Henri-Jean Servat.
Et je le salue, Henri-Jean Servat.
Mais j'ai plaisir à vous saluer, mon cher Pascal, et à saluer vos auditeurs aussi, bien évidemment.
Ils vont être contents de dialoguer avec vous, comme Franck, sans doute, qui avait le micro il y a quelques instants et qui nous disait que le film qu'il préférait, c'était La Boum, Franck. Alors, on parle beaucoup de La Boum, mais Brasseur, ce n'est pas que La Boum, Franck.
Non, c'est pas que La Boum. C'est moi le seul truc que je peux, qu'il y a rien à reprocher à une personne comme Claude Brasseur. On entendait rarement parler de lui. Il a toujours fait son genre de comédien. Il faisait son petit tous ses films. On n'entendait jamais parler de lui. Il faisait même dans les pièces de théâtre, dans tous ses films qu'il a fait. C'est pour ça que j'adorais ce comédien. Et franchement, ça m'a fait bizarre le jour que hier que j'ai appris qu'il était malheureusement parti. Je pense qu'il est parti voir ses acteurs avec qui sont partis aussi bien avant lui aussi. Et je pense que c'est un comédien qu'on n'oubliera jamais. Je pense. Et c'est ça qu'il faut pas oublier dans ce genre de personnes-là. Il y en a d'autres qui, malheureusement, aussi, c'est pareil, comme on dit, comme vous disiez tout à l'heure, je dirais Belmondo, Delon, ces gens-là qui partiront aussi, c'est pareil, c'est des gens, c'est de l'époque, bon, j'ai pas connu ça. Ma maman a connu ça. Et c'est vrai que, voilà, et c'est ce genre de comédien-là, voilà. Il faudra, moi, je pense que je l'oublierai pas parce que, voilà, dans La Boum, qui a fait, je pense, créer Sophie Marceau, parce que dans ce film-là, c'est Sophie Marceau qui ont, après, maintenant qu'on entend énormément parler d'elle aussi, et je pense que là-dessus, je pense qu'en plus, Sophie Marceau, pour lui, Claude Brasseur, c'était pratiquement son deuxième papa. Mmh. Et je pense que voilà.
D'ailleurs, on l'a pas entendu, hélas, pas moi entendu. J'aurais aimé l'entendre, mais elle est sidérante de naturel dans La Boum. Henri-Jean Servat, ce qui est frappant chez Brasseur, mais c'est vrai pour Rochefort, c'est vrai pour Noiret, pour Riche, pour Crémer, pourtant, c'est la diversité, la palette de ce qu'ils auront fait. Théâtre parfois très intello, très exigeant, Le Souper ou Don Juan avec Bluval. Film très populaire comme Camping. Film plus haut de gamme parfois, et même très haut de gamme, Merveilleux film, Une histoire simple de Claude Sautet. Vraiment l'acteur populaire et qui a de multiples rôles.
Ah oui, absolument, il pouvait passer, car quand on regarde sa filmographie dans les années précédentes, il pouvait aussi bien passer d'un rôle chez Costa Gavras à chez Denis Atelier.
Henri-Jean, le son est pas très bon malheureusement. On va passer une page de publicité et on va essayer de le sécuriser, comme nous le disons. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On essaye de sécuriser la liaison avec Henri-Jean Servat. Donc nous sommes avec Marie-Agnès. Marie-Agnès, bonjour.
Bonjour.
Hommage à Claude Brasseur. Nous continuons.
Hommage à Claude Brasseur. Moi, j'ai 72 ans. Donc Claude Brasseur, d'abord, moi, j'ai connu le père. Hein, ma mère m'avait emmené au théâtre voir le père. Mais lui, moi je trouve que c'est un homme complet. D'abord, moi ce que j'admire chez lui, c'est on parlait pas de lui, de sa vie privée. Il est resté 50 ans fidèle à la même femme. Je trouve que dans ce monde du théâtre et du cinéma, c'est quelque chose de. Il était très discret sur sa vie privée. Et puis surtout, moi, je me souviens du dîner avec Claude Riche. Pour moi, ça a été un moment de théâtre absolument extraordinaire. Et puis, la crime aussi, la guerre des polices. c'est des filles, ils pouvaient tout jouer. Puis on avait l'impression, si vous voulez, que c'était inné chez lui. Il n'y avait pas de jouer, il n'y avait pas de surjouer. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes acteurs qui pourraient prendre modèle sur lui. Mais moi, tout à l'heure, vous évoquiez Noiret, mais moi, je pensais aussi à Serrault, qui a joué aussi des à la fois du comique et des films. Je trouve que c'est une là cette année, je trouve que c'est une hécatombe. J'en vois pas qui soit capable de les remplacer tout cela, Piccoli et autres. Je vois pas.
On n'a pas parlé de Jean-Pierre Marianne, mais c'est vrai que c'est la même génération. Vous avez évidemment raison, mais on apparaît en disant ça comme des gens un peu nostalgiques.
Mais c'est pas nostalgique, c'est que, écoutez, hier soir, je vous ai regardé à l'heure des pros, où vous repassiez la séance je sais plus si c'est un éléphant, ça trompe, dans la séance du bar et autres. Oui. Vous avez dit, on pourrait plus faire ça
maintenant. C'est vrai, oui.
Mais on se donne des contraintes. On peut rire.
Et oui, mais c'est intéressant. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne hier soir, la scène dans un éléphant.
Je suis toute seule, mais j'ai ri. Mais oui. J'ai pleuré de rire comme quand
il est aveugle. Il est aveugle, il est avec une canne blanche, il rentre dans un resto et il casse tout. Je pense qu'aujourd'hui.
Son copain qui est déprimé parce que sa femme est partie.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, montrer un aveugle qui rentre dans un café et qui casse tout. Je pense que celui qui écrit la scène, il s'auto-censure peut-être parce qu'il se dit attention, je mets en scène un aveugle, je mets en scène quelqu'un qui est handicapé je peux le tourner en dérision et il est possible qu'on me le reproche.
Eh oui, d'un autre côté aussi le sketch de Muriel Robin sur la fille qui vient dîner. Est-ce qu'on pourrait encore passer ça? C'est là où cette espèce d'auto-censure de fausse moralité, je trouve, de fausse morale, moi qui fait que je suis nostalgique de tous ces films-là et de tous ces grands acteurs, voilà.
Alors il y a quelque chose que vous avez dit qui est très juste, c'est qu'il est immédiatement crédible et il est ce qui est bien pour un acteur. Et ça c'est l'école Gabin, c'est-à-dire qu'il a d'ailleurs commencé par Gabin. Voilà, mais il travaillait beaucoup. Philippe Labro, que vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL, dit il bossait beaucoup pour arriver à ce naturel où t'as pas l'impression de jouer.
Son rôle par cœur.
Voilà, t'as pas l'impression de jouer, mais pour arriver à ça, c'est du boulot et des années.
Mais bien sûr, et je trouve que ce que l'on là, on encense rapidement quelqu'un, mais on sent pas le travail. Il y a du jouer, il y a du voilà, c'est et tout. Et moi, ce qui me fait rire, la boum, c'est pas ma génération, puisque j'ai 72 ans. Mais je l'ai revu avec ma fille, et j'ai vécu ça avec ma fille. Les portes qui claquent, et je m'en vais, j'en ai marre que vous me censuriez, et tout ce qu'on veut. Et on se revoit, et mon mari, qui était pas du tout ce style de film, rigolait aussi dans la boum en disant, mais c'est ce qu'on vit.
Oui, c'est plus que du rire, d'ailleurs. C'est de l'émotion, d'ailleurs. On est entre rire et larmes. C'est ça,
absolument.
C'est pour ça que ça touche.
Exactement, exactement.
Merci, Marie-Agnès, de ce très joli témoignage. Est-ce qu'Henri-Jean Serva est de retour avec nous?
D'accord.
Henri-Jean, vous êtes là?
Oui. Je suis dans un coin perdu en Provence, mon pauvre Pascal.
Ça, c'est d'abord, vous avez bien raison, parce que c'est beau, la Provence.
Oui.
Mais en même temps, on aimerait vous entendre.
Oui, voilà, mais je pense que ça va être bien. Je pense que vos techniciens ont été sur le coup, là-bas. Je pense que ça va être bien. Là-bas.
Bon, vous écoutiez Marie-Agnès. Alors, ce qui m'ennuie, la petite musique depuis une heure, Henri-Jean, c'est au fond, on n'a plus de comédiens comme ça. Voilà, c'est ça, la petite musique. C'est Noiret, Riche, Crémer, Serrault, Delon, Belmondo, Girardot, Moreau, etc. Je peux en citer 50. Voilà ce que j'entends à l'antenne. Vrai ou faux?
Mais c'est un peu vrai. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont été patinés par le temps, Brasseur. Il est patiné. Brasseur, il avait ce côté un peu bouclier sentimental en poudre rhinocéros, un peu ce type qui avait été blindé par la vie et tout. Si on compare avec Pierre Ninet, avec Gaspard Huyel, qui sont des jeunes que je trouvais pas tant et formidables, ils sont pas bluis par la vie, si j'ose dire, comme l'était Brasseur. On peut pas comparer des petits mecs de 35 ou 40 ans avec quelqu'un qui en a 80, qui sont couturés, bosselés, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bourlingué, mais dans quelques années, les autres le seront aussi. Puis en plus, c'est vrai c'est des gens qui se sont épanouis à une époque où il y avait qu'une seule chaîne de télévision, il y avait des magazines de cinéma qui racontaient leur vie, qui s'intéressaient à eux. Maintenant, c'est plus tout à fait la même chose, quoi. Le contexte n'est plus le même. Il y a d'aussi bons comédiens maintenant que Brasseur et ses camarades, mais
sont peut-être moins publicisés, moins mis en lumière, et puis ils racontent moins leur vie dans les journaux, peut-être. Je trouve que c'est pour ça.
Bah écoutez, merci Henri-Jean, même si là encore, on sent que vous êtes dans un coin perdu. Je vous le confirme, parce que ça passe pas extraordinairement. Mais restez avec nous, parce que Francis va être là en Meurthe et Moselle, peut-être après la publicité. Francis, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Francis est là. Bonjour Francis. Francis qui va rappeler que dans la famille Brasseur, c'était pas facile d'avoir un prénom parce que Pierre Brasseur était un immense comédien. C'est une légende, Pierre Brasseur, qui avait joué Keane, qui joue dans les grandes familles, qui était marié à Odette Joyeux. Et il a fallu se faire un prénom avec Claude. Et puis on a parlé d'Alexandre, qui est son le fils de Claude. Bonjour Francis.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Oui, je crois que ça remonte à plus loin que Pierre Brasseur. Je lisais ce matin quelques articles sur Claude Brasseur et la famille d'artistes remonte à 1820. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à traverser. Marie-Agnès a tout dit avant sur l'acteur. Il était capable de tout jouer. Il était bon dans tous les créneaux du cinéma. Il est passé de Vidocq à Camping. Il est passé de La Boum au Dîner de cons. Il est passé. Enfin voilà, il a évidemment les films mythiques avec Lanoux, etc. Et sa carrière d'acteur est absolument extraordinaire. Sa carrière d'homme est absolument extraordinaire. Elle a dit qu'il avait partagé pendant 50 ans la vie de la même épouse, qui était une personne, une intellectuelle. Et donc, à chaque fois qu'il avait l'occasion de s'exprimer sur quelque chose, même s'il ne cherchait pas les micros, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur quelque chose, quel que soit le sujet sur lequel on l'interrogeait, j'ai toujours trouvé que c'était un type qui réfléchissait. Voilà, on n'était pas sur l'acteur bébête qu'on exploite pour une facette de son talent. Il avait quelque chose en plus. Il avait l'intelligence en plus de son talent d'acteur. Et puis surtout, il a eu une autre carrière dont on parle très peu. C'était sa carrière sportive, parce que c'était un grand sportif.
Bien sûr. Vous avez raison, le Paris-Dakar.
Paris-Dakar gagné avec Jacques X comme copilote, mais surtout, alors ça, on va dire, bon, il y a une voiture, il y avait Jacques X, etc. Peut-être qu'on aurait mis ma grand-mère, elle aurait aussi gagné Paris-Dakar. Mmh. Mais il a été avant qualifié pour les JO d'hiver d'Innsbruck.
Vous avez raison.
C'était un champion de sport d'hiver, c'était un très bon skieur, c'était un champion de bobsleigh. Il avait été, je crois, plusieurs fois champion de France de bob. Et voilà, donc c'est un type multifacette, c'est un type dont on ne fera pas évidemment d'obsèques nationales avec un grand discours à la Madeleine, mais si on regarde et si on compare, je pense qu'il y avait peut-être plus de talent. Je suis méchant.
Non, il faut pas dire talent. Ça, c'est pas le jour où il faut dire ça. Mais Henri-Jean Servat, moi ce qui m'intéresse, Henri-Jean, puisque vous êtes journaliste à Paris Match, vous l'avez interrogé beaucoup, on a effectivement pas mal parlé du comédien, de l'acteur, mais l'homme qu'il était, cette vie privée, Marie-Agnès disait tout à l'heure, il est resté marié pendant très longtemps avec la même épouse, et on sait peu de choses de lui.
Oui, parce que mais Claude Brasseur, on ne trouve trace de lui que dans les pages spectacles des journaux. Il n'a jamais fait de faits divers, il n'a jamais emmerdé le monde. Et je me dis qu'il faisait des bamboulas de temps en temps, mais c'est lui qui ça regardait sa vie personnelle. Mais je trouve que c'était quelqu'un, vous savez, j'ai été confronté à Match à plein de choses. On avait des gens qui exigeaient, par exemple, des photos de telle façon, qui exigeaient de relire les papiers, qui ne voulaient pas. Il n'a jamais été comme ça. Il n'y a pas un journaliste qui vous dira que Brasseur n'était pas facile, mais pas facile à aborder. Mais une fois que vous l'interviewez, il vous racontait sa vie le plus correctement du monde, très gentiment. Mais il aimait. Moi, c'était quelqu'un qui était totalement dévoué à son métier. Il aimait vraiment le métier d'acteur. On avait le sentiment qu'il ne jouait que pour ça, pour le plaisir de jouer. Et ce que dit votre auditeur Francis, ce qui est vrai, je crois que les ancêtres espinasses de Brasseur, ça remonte à Napoléon Ier. Ils étaient juste post-napoléoniens, ils étaient comédiens. immédiatement les derniers jours qui ont suivi le règne napoléonien. Je veux dire, donc, c'est une dynastie qui était absolument, absolument extraordinaire et formidable. Et ils ont changé, ce qu'on dit, ils ont changé le fameux nom de Espinasse, qui ne trouvait pas forcément grandiose. Ils l'ont changé en Brasseur, qui était le nom de jeune fille de la mère de Pierre Brasseur.
Alors, dans cette génération qu'on dit exceptionnelle, on est d'accord qu'il reste Delon, Belmondo, il reste Brigitte Bardot, il reste Jean-Louis Trintignant, et ils ne sont plus très nombreux à avoir passé 80 ans, 85 ans.
Ben non, mais moi je veux dire, il y a Robert Rossen, moi, que j'idolâtre aussi,
bien
qui
sûr.
Est encore... qui est inquiète en juin, mais ils sont plus beaux parce que le temps passe, parce que puis il n'y en a plus beaucoup qui ont l'esprit bien clair et qui sont encore en activité. Hein. Effectivement, ça se raréfie complètement.
Et c'est le cinéma des années 70-80, le cinéma parfois du dimanche soir, c'est des énormes succès. Et c'est pour ça que tous ces gens, on le disait en plus, sont rentrés dans la mémoire collective parce qu'ils étaient très présents à la télévision dans des émissions de variété. Je pense à Serrault, je pense à Poiret. Ils étaient, comme on dit, des bons clients, Rochefort, tous ces gens-là. Ils étaient très, très présents. Nathalie est là. Nathalie qui habite Grenoble. Bonjour Nathalie.
Bonjour Pascal.
Votre témoignage.
Eh bien oui, un acteur, oui, avec un grand tas, avec une grande classe, avec une voix mémorable hein, quand on l'entendait. Voilà, je dirais presque, oui, séduisant. Hein. Enfin, moi, j'ai le souvenir... de lui à l'écran, oui, d'un homme séduisant, avec un charme particulier. Et puis, ben, ouais, des rôles où, moi, j'ai 49 ans, donc la Boum, je l'ai vu un peu plus tard, mais qu'à la date de sa sortie. Mais du coup, finalement, des rôles, le papa qu'on aurait aimé avoir, peut-être l'amant qu'on aurait aimé avoir dans certains films, dans Camping, le papy qu'on aurait aimé avoir. Enfin, il incarnait plein de choses, en fait, plein de choses du quotidien. C'est peut-être pour ça que les Français sont attachés à ce genre de personnage, en fait. Hein.
Non, mais l'identification, et vous avez raison, oui. faut aimer les comédiens, Henri Jean. Si tu n'as pas le potentiel sympathie pour un comédien, et tous ceux dont on parle, hein, Claude Rich, Jean Rochefort, Lanou, c'est des gens qui... C'est très rare un comédien antipathique, ça peut exister. Mais c'est bien d'avoir un potentiel sympathie.
Mais alors, vous savez, cher Pascal, et je vais vous le dire pour votre auditrice aussi, que quand Brasseur a joué deux fois le père de Sophie Marceau, il a joué la Boum. Et puis après, il a été engagé par un metteur en scène qui s'appelle Francis Giraud pour jouer Descente aux Enfers, qui s'est passé 4 ans après la dernière Boum, après la Boum 2. C'est un film qui avait été surnommé par les critiques, et par exemple, on l'avait appelé la Boum X. Pourquoi ? Parce que voulant faire de l'argent, on ne peut pas reprocher à un producteur de vouloir faire de l'argent, ils ont mis Brasseur dans les bras de Sophie Marceau, dans les bras de Brasseur. C'est-à-dire 4 ans après les rapports père-fille au cinéma dans les films de Pinotto, il est devenu son amant et les relations étaient horribles. Le film avait fait un soumien. Moi, j'ai fait les papiers à l'époque, j'étais scandalisé parce que Sophie Marceau d'abord était nue, elle était nue dans les bras de son père et Brasseur. Claude racontait les nombres d'insultes, de lettres d'insultes qu'il a reçues, qui étaient extrêmement importants. Alors, ils ont été contents parce que le film a frémi, a fait du buzz et a beaucoup parlé à cause de ça, mais parce qu'il s'est fait traiter d'inceste et tu n'as pas honte de coucher avec ta fille. Je veux dire, que les gens lui
on l'a d'ailleurs pas entendu, Henri-Jean Servat, je suis très triste parce que je n'ai pas entendu la réaction de Sophie Marceau. Donc je ne sais pas si vous avez réussi à la joindre ou pas.
Non, mais elle n'aime pas beaucoup se répandre dans les journaux. Peut-être qu'elle est un peu, certainement, Sophie est une fille sensible. Elle doit être touchée par ce genre de choses. Mais il faut essayer de la joindre. Enfin, moi, j'avais un téléphone, mais c'est...
Bon, on va peut-être faire un conseil aux auditeurs. S'il fallait 3 films de... ce soir à regarder de Claude Brasseur. Alors moi j'en ai choisi 3, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'adore Une histoire simple de Claude Sautet, qui est un film très moderne. C'est Romy Schneider qui fait un bébé toute seule. On est en 77 ou 78. Elle est mariée d'ailleurs avec Claude Brasseur, ou je crois que c'est en tout cas son compagnon. Il y a Bruno Kremer également qui est dedans. Je trouve que c'est un film formidable de Sautet. Il y a Le souper d'Edouard Molinaro, et c'est le texte de Jean-Claude Briseville qui est merveilleux avec Claude Rich. Et puis il y a Les Saintes Glaces de Georges Lautner avec Alain Delon. Voilà les 3 films que j'ai choisis, Henri Jean. Si vous avez un conseil.
Ah oui, mais j'adore Les Saintes Glaces, magnifique, parce qu'il fait le rôle du brave gars un peu paumé entre les deux. Vous savez qu'une histoire simple, c'était Schneider qui avait demandé, comme elle avait un droit de contrôle sur la distribution de ses films, c'est elle qui avait demandé à Dabadie à Sautet de lui faire un film dans lequel il n'y aurait pas de mec. dans lequel il n'y aurait pas de mec et dans lequel on parlerait d'avortement. Parce qu'elle est effectivement enceinte de Brasseur et son compagnon et elle se fait avorter dans le film. C'est la première fois qu'au cinéma, on a voyé le mot ouvertement dit avortement dans un film avec une grande vedette. Et c'est Romy Schneider qui avait choisi Claude Brasseur. Elle choisissait ses partenaires. C'était elle. Le metteur en scène faisait sa liste. Et puis elle avait éjecté Florent Giorgetti, enfin des gens qu'elle voulait pas dans le film. Et Brasseur, elle l'avait voulu réclamer. C'est la seule fois qu'elle a joué avec lui. Mais ils sont pas souvent ensemble parce que ils sont en tension.
Il y a des scènes dans un café dont je me souviens.
Le peu de scènes qu'ils ont ensemble, elles sont pas nombreuses, mais elles sont denses parce qu'ils s'affrontent, puisqu'elle veut le quitter, puisqu'elle veut pas garder le gosse. Il lui déplaît souverainement, quoi. C'est pas un homme qui lui plaît, puisqu'elle va tomber dans les bras de Brasseur, dans les bras, par exemple, de Bruno Kremer. Et à la fin du film, on croit comprendre qu'elle est enceinte de Bruno
Exactement.
Kremer. Et que ce gosse-là, elle va le garder.
Il y a Sophie Daumier également qui est dedans. Il y a Arlette Bonnard.
Francine Berger.
Il y a Francine Berger, Madeleine Robinson.
Qui joue la mère.
Exactement. Donc c'est un film de 78. Merci Henri-Jean Servat. Joyeux Noël à vous.
Mais joyeux Noël à vous. Je vous souhaite beaucoup de gros cadeaux dans vos petits chaussons.
écoutez, merci à vous. Pourquoi pas des DVD de films de Claude Brasseur. On va marquer une dernière pause. Nathalie, un mot de conclusion peut-être?
Eh ben, moi, ce soir, je regarderai la rediffusion pour la énième fois d'Un éléphant et ça trompe énormément et nous irons tous au paradis.
J'ai vu que vraiment, France 2 le programmait.
Voilà. Ça reste des films cultes qui réunissent tous les stéréotypes de la mère juive, de l'homosexuel, de l'aveugle, et on rit de tout ça et c'est formidable, quoi. Enfin, voilà.
C'est sur France 3 d'ailleurs. Simon!
Oui.
Quand Marthe Villalonga arrive, j'aurais bien aimé l'avoir d'ailleurs, l'écouter Marthe Villalonga aussi. Et elle arrive, Simon, elle arrive avec la valise sur le cours de tennis. Voilà, je t'ai ramené tes affaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Marthe Villalonga joue la mère de Guy Bedos, mais elle a le même âge. Parce que c'est en 77, donc c'est 43 ans. Donc, je ne sais pas quel âge elle avait à l'époque, Marthe Villalonga, mais elle était en fait très très jeune pour jouer ce rôle, le rôle de la mère juive, comme vous dites.
Pascal,
oui.
J'ai un cadeau pour vous.
Ah bah on l'écoute.
Bah oui.
Allons-y.
Simon, va lui parler.
Enfin, Mouchi, tu vois pas qu'on est en
jeu. Petit, va lui parler. Ou alors tu me dis carrément que tu préfères que j'ouvre le robinet du gaz. Mais alors tu dis tout de suite, hein.
T'es Mouchi.
Écoute, tu reçois une lettre, je te jure innocente. T'as un mot qui dépasse.
Maman.
Et ben l'autre, il me fait pas un drame tragique.
Mais Mouchi,
il a quel droit? Ou alors je lui dis on se marie. Bon, très bien, s'oblige pas. Mais là, je pourrai parler. Tu sais pas ce qu'il me répond.
Mais pourquoi tu nous dis
Elle est de 1932, Marthe Villalonga, et Bedos c'était de 1934. Et elle joue sa mère dans le film. Beaucoup d'émotions, merci à tous les auditeurs, vraiment merci à Henri-Jean Servat. La pub, et dans une seconde, ce sera Flavie Flamand.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT.